France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Rosetta Cutolo, femme d'honneur, une histoire de la mafia napolitaine. Rosetta Cutolo, son nom ne vous dit sûrement rien, et c'est ce qu'elle a toujours voulu précisément. Oui, être libre à l'ombre de son frère, Raffaele Cutolo, l'un des plus grands parrains de la Camorra entre les années 70 et 90. Comme beaucoup de ses congénères mafieux, il a passé sa vie en prison, elle a été son bras armé à l'extérieur. En cavale pendant plus d'une décennie, un temps exilé chez les narcotrafiquants sud-américains, recherché par toutes les polices italiennes et internationales, Rosetta, 57 ans, s'est rendue aux autorités italiennes en 93, sur ordre de son frère, signant ainsi la fin de l'un des clans camorristes les plus importants de l'histoire. Alors qu'on les imagine volontiers en madone, en mère de famille nombreuse, en veuve éplorée, en victime malheureuse, les femmes ont toujours joué un rôle actif pour maintenir les organisations criminelles à flot. La dramatique prospérité de Cosa Nostra, en Sicile, de 'Ndrangheta, en Calabre, ou de la Camorra napolitaine, repose en partie sur les femmes. Une place dans l'ombre, certes, mais avec de vrais pouvoirs, à l'image de Rosetta Cutolo. Notre invitée aujourd'hui, Anne Véron, autrice et réalisatrice franco-italienne, l'autrice d'un documentaire intitulé « Des femmes dans la mafia ». Elle a également coécrit un ouvrage sur le même sujet, « Femmes dans la mafia, Mare Nomadone » avec Milka Khan, livre paru aux éditions du Nouveau Monde en 2015. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Juliette Proutot, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Donnante, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Il est des lieux, des villes et des campagnes dont l'évocation exhale immédiatement l'odeur du crime organisé. En Italie, le nom de Corleone, petite commune de la province de Palerme, est ainsi irrémédiablement lié à Cosa Nostra, la mafia sicilienne, comme celui de San Luca, dans le massif de la Spromonte en Calabre, est attaché à l'organisation 'Ndrangheta. Mais inversement, il existe des endroits dont personne ne connaît le nom et qui ont engendré parmi les pires criminels au monde. C'est le cas d'Ottaviano, une petite ville située en bordure de Naples, collée au flanc du Vésuve. Dans cette commune aux ruelles escarpées, se trouve un chemin au nom poétique, la Via delle Rose, le chemin des roses. Au numéro 25, il y a une grande villa, passablement délabrée, au mur d'un blanc un peu passé, au toit d'ardoise ocre. De prime abord, rien ne la distingue des maisons voisines. Mais si on y prête attention, certains détails détonnent. D'abord, il y a les caméras de surveillance. Pas juste une ou deux devant la porte d'entrée ou du garage, non, il y en a partout. Et puis le soleil qui se reflète un peu étrangement sur les fenêtres. La lumière n'est pas réfléchie comme elle devrait. D'ailleurs, si on regarde à l'intérieur, il y a comme un petit décalage, un voile. C'est dû au blindage des vitres de la maison, de toutes les vitres, et en plus des portes blindées, évidemment. Au petit matin du lundi 8 février 1993, sous les regards d'une aube encore sombre, une vingtaine d'officiers de police se déploient devant la maison. Le plus capé d'entre eux prend une longue inspiration et frappe à la porte. Apparaît alors une petite dame aux allures de nonna italienne, cheveux gris, jupe d'hiver mimolée et veste imperméable. Voici Rosetta Cutolo, 57 ans, sœur aînée de Raffaele Cutolo, grand chef mafieux de la Camorra. Elle vient de se faire arrêter. Après 10 ans de cavale, la première femme à avoir dirigé une organisation criminelle camorriste est désormais entre les mains de la justice italienne. Et la nouvelle fait la une de tous les médias européens, en France comme ailleurs, et notamment au journal de 20h de France 2.
Elle était surnommée la Mamma Camorra, la maman de la mafia napolitaine, ou plus familièrement les yeux de glace, pour bien mettre en avant sa détermination dans la criminalité organisée. Car Rosetta Cutolo assumait la succession de son frère, un des plus importants parrains de la Camorra, qui, de sa prison, donnait des ordres à exécuter sans tarder. En cavale depuis 13 ans, Rosetta avait été condamnée à 9 ans et demi de prison, Aujourd'hui, elle risque beaucoup plus. Pour homicide, 3 morts au moins lui sont imputables. Tentative d'homicide, sans compter trafic de drogue.
Alors, le ministre de l'Intérieur pavoise. 6177 personnes liées aux diverses mafias interpellées en 1992, c'est un record. Mais il l'avoue lui-même, l'arrestation de Rosetta Cutolo à Naples, c'est avant tout un succès psychologique. Pour bien montrer que l'État italien a décidé cette fois de frapper fort et sur l'ensemble du territoire.
Mais ce que les médias français comme italiens manquent de préciser, c'est que Rosetta Cutolo n'a pas été attrapée par la police. Elle leur a dit où la trouver. Autrement dit, elle s'est rendue. Puis elle a choisi de réapparaître de la même façon qu'elle avait décidé de disparaître 13 années auparavant. Pourquoi ? Rien n'est certain sur ce point. Ce qui ne fait que renforcer, si c'était encore possible, le mystère Rosetta Cutolo. Pour avoir une chance de déchiffrer l'énigme, c'est aux origines de la caméra elle-même qu'il faut remonter. Une organisation criminelle qui s'est infiltrée très tôt dans la vie de la jeune italienne. Rosetta Cutolo, dit Rosetta, née juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le 1er janvier 1937 à Ottaviano, donc, en Campanie. Elle ne vient pas d'une famille mafieux. Elle est issue d'un milieu très modeste, paysan, avec des parents aussi pauvres que religieux. Les 3 enfants, Rosetta et ses 2 petits frères, sont élevés à la dure, dans la stricte obédience des principes catholiques. Ils passent leur temps ensemble, dorment dans le même lit. Le père, alcoolique invétéré, meurt alors qu'elle n'a que 16 ans. Et c'est elle qui s'occupe de la fratrie et qui aide à subvenir aux besoins de la famille. Rosetta est sérieuse, rigoureuse, responsable. Elle gère. Pas le temps de passer par la case-école, évidemment. Alors elle vend des roses avec sa mère pendant un temps, puis entre dans une usine de fabrication de vêtements. Elle travaille 15 heures par jour, c'est un bon élément, une bonne couturière, et le rythme est harassant. Pendant son temps libre, l'adolescente s'occupe de sa famille et passe du temps dans l'église de la commune. Car Dieu et la prière ont une grande importance dans la vie de la jeune femme. Une vie, a priori, éloignée du crime organisé. Mais à Naples, dans les années 50, la mafia n'est jamais bien loin. Ici, on l'appelle la Camorra, et elle fait partie du quotidien des Napolitains, depuis toujours. En 2008, pour le journal britannique The Guardian, l'auteur spécialisé Ed Bouliami résume ainsi les origines de la Camorra.
La Camorra a vu le jour à l'époque révolutionnaire, au moment de la réaction contre la République française de Naples. Entre l'intelligentsia libérale et l'élite réactionnaire, il existait alors un vide. Elle en a profité, se proposant de protéger la population de Naples, qui était alors la 3e ville la plus peuplée d'Europe et le plus grand port du continent. Un endroit idéal pour les contrebandiers et les racketteurs. La mafia italienne fut écrasée puis absorbée par le régime fasciste de Mussolini. C'est, ironie du sort, la renaissance de la mafia sicilienne après la guerre qui a provoqué celle de la Camorra moderne. Mais la Camorra et Cosa Nostra étaient différentes. La première était urbaine, la deuxième rurale, les Napolitains liés uniquement par des intérêts commerciaux criminels, les Siciliens également par des liens familiaux. Les Siciliens se paraient d'un vernis d'honneur, dont la Camorra ne se souciait guère. La Camorra s'est montrée plus cyniquement flexible que Cosa Nostra, plus changeante dans son recrutement, ses loyautés et ses inimitiés.
Et c'est par son frère, Raffaele, que la Camorra entre dans la vie de Rosetta. La légende dit, alors qu'il n'a qu'une dizaine d'années, qu'un jour, un parrain local l'a approché. Il a glissé une arme à feu dans le caleçon du gamin et lui a confié une mission. Faire entrer le revolver dans le grand marché couvert sans être démasqué par les policiers qui, effectivement, ne fouillent que les adultes. Raffaele sourit aux gardes et, avec son visage innocent, passe le contrôle sans encombre. À l'intérieur du marché, il retrouve le mafieux qui récupère l'arme et abat l'un de ses rivaux devant le gamin. La Camorra vient de le baptiser par le feu et par le sang. Ce qui va de fait bouleverser toute la vie de sa sœur. Car le garçon qui menait jusque-là une vie de débrouille va embrasser la carrière criminelle, et avec succès. Il monte peu à peu les échelons du clan local de la Camorra.
Non mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête !
Mais c'est malade, arrête !
J'ai pas quelque chose ! Arrêtez-les ! Je vais pas rêver, je t'en prie ! Lâche-le ! Tu vas le tuer ! Je t'en supplie, arrête ! Arrête !
Il a 22 ans lorsqu'il commet son premier assassinat. Il existe d'ailleurs plusieurs récits de ce meurtre. L'un d'entre eux, celui que l'histoire ou la légende a retenu, implique sa sœur. Un homme aurait manqué de respect à Rosetta, lui aurait fait la cour ou lui aurait touché les fesses. Alors pour venger son honneur, une obsession chez les mafieux, Raphaël aurait écrasé la tête de l'individu sur le capot de la voiture. Cette version continue à être prise aujourd'hui dans certains médias. Mais en réalité, et de façon plus prosaïque, disons moins romanesque, Raphaël manque de renverser une fillette en voiture. En colère parce qu'elle n'a pas regardé la route, il gifle l'enfant. Le frère de la fillette vient défendre sa sœur, comme de nombreux passants. Raphaël sort alors une arme automatique de sa voiture et décharge la totalité de son arme. Il fait au moins un mort, Mario Vichito. Nous sommes en 1964, Raphaël Cutolo est condamné à 24 ans de prison. Paradoxalement, c'est là, à partir du moment où son incarcération commence, que l'épopée du camorriste, et donc de sa sœur, débute. Comme l'explique le célèbre journaliste Roberto Saviano dans une vidéo YouTube du 23 octobre 2023.
In carcere, e qui inizia l'epopea cutoliana, ha un'intuizione politica.
C'est en prison que commence l'épopée de Cutolo. Il a une intuition politique. Les organisations criminelles napolitaines, citadines, sont fortes, puissantes et articulées. Les Forcellani, les Maranezzi ou les Antroterra, ceux d'Ottaviano, de San Sebastiano, d'Ercolano, toutes des familles. Mais elles n'ont pas de structure médiatique publique. Elles s'allient et se séparent, elles se battent et fusionnent, toujours au service de quelqu'un d'autre. Telle est son intention. Mais comment y parvenir ?
Et c'est bien l'emprisonnement de son frère qui va changer la vie de Rosetta. Car pour parvenir à ses fins, pour continuer à construire son empire, pour réunir les clans camorristes, son cadet a besoin d'argent, d'hommes de main et de quelqu'un de confiance à l'extérieur. Eh bien, cette personne, ce sera sa sœur. Oui, c'est elle qui va s'occuper de vendre les maigres terres de leurs parents. C'est elle aussi qui va utiliser son poste dans l'usine de tissus pour faire des vêtements une sorte de monnaie d'échange. Elle récupère ou vole des vestes, des pantalons, enfin tout ce qui servira à habiller les premiers membres de l'organisation de son frère. Ça peut paraître dérisoire, mais pour une certaine frange de la population napolitaine à l'époque, la misère est telle que la générosité, même vestimentaire des Cutolo, marque les esprits. Ce sera d'ailleurs quelque chose de fondamental dans l'organisation de Raffaele, l'idée de prendre soin de ses membres, sans forcément vouloir, au début en tout cas, quelque chose en échange. Or, Rosetta va apporter un autre élément fondamental pour la construction de l'organisation. Elle présente à son frère celui qui deviendra son bras droit, Vincenzo Casillo, qui n'est autre que le patron de l'usine de vêtements où travaillait la jeune femme. Alors c'est peu de dire qu'à partir de là, la vie de Rosetta Cutolo tourne autour de son frère. Elle ne se fiance pas, elle ne se marie pas, n'a pas d'enfant, elle vit par et pour son frère. Et sa dévotion n'aura aucune limite.
Notti d'un tempo che fu, tre cavalieri da Spagna se partiru, dall'Abruzia Sicilia passaru, e poi ca in Calabria se fermaru. 21 anni lavoraru sotto terra per fondare le regole sociali, leggi d'onori di sangue e di guerra. Leggi maggiori, minori e criminali, esti regoli di sangue e d'omertà, da patria a figli si li tramandaru, isti si leggi di la società, leggi cusigni un ta storia d'assaru. Camurra e mafia è società organizzata, 'ndrangheta, camurra e mafia, Sicilia, Napoli, Calabria onorata. La mattina a mezzo di lumari, na barchicetta vitti navigari, 5
veli e sette marinari, uno di chi stime vosi domandari. Giovanotto dicete che cercati, onore e sangue e un ci rispondia, sopra sta barca se voi inchianati, onore e sangue troviamo per la via. E me portaro a mezzo di lumari, tani soletta in omo favignana, ho centi tutti chi sta di ascutari, chi sta in a terra vicina e assai lontana.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le destin de Rosetta Cutolo ou la mafia en jupon.
Affaires Sensibles.
Messieurs, s'il vous plaît, silence.
Le professeur sait tout. Il est en train de chercher la meilleure solution à ce problème. Mais il vous faudra attendre quelques jours. Faites savoir ça aux amis. Mon frère n'a jamais abandonné personne. Vous avez compris? Jamais.
Fabrice Drouel.
Nous sommes au début des années 70 et Raffaele Cutolo est emprisonné depuis 1962. Mais c'est toujours le même schéma. Avec les mafieux, comme il en va d'autres délinquants partout dans le monde, il continue à sévir derrière les barreaux. Et c'est bien ce que va faire Raffaele en transmettant ses ordres à sa sœur, Rosetta. Oui, c'est bien elle qui dirige le clan d'un point de vue économique, logistique et même des ressources humaines, si l'on peut dire. Roberto Saviano décrit ainsi le rôle de Rosetta.
Rosetta Cutolo était une chef de la mafia, mais elle évitait de gérer la branche criminelle. Elle voulait gérer l'organisation. La Camorra a une vocation féministe. Dit comme ça, c'est paradoxal, mais les femmes dans la Camorra ne jouent pas seulement un rôle dans l'ombre, comme dans Cosa Nostra ou la 'Ndrangheta. La Camorra a des femmes en première ligne. Elles planifient des assassinats. Elles sont dans l'organisation, dans la hiérarchie, gèrent l'argent. C'est dû au fait que dans l'histoire culturelle de la Campanie, la femme a toujours eu un rôle dominant.
La visibilité officieuse de Rosetta ne doit pas faire oublier le caractère mégalo de son frère, qui décide, le 24 octobre 1974, jour de la Saint-Raphaël, d'introniser officiellement son organisation. Son nom, la Nuova Camorra Organizzata, ou NCO. Et si Raffaele ne peut pas sortir de prison, les camoristes, comme lui, restent les rois entre les murs. Reportage sur ce point de Bertrand Vanier pour France Inter en 1982.
Poggio Reale, c'est le domaine, c'est le royaume de la mafia et de la Camorra. À l'intérieur de ce royaume, la Camorra y traite ses affaires, les chefs y rendent leur sentence, les victimes désignées y sont exécutées. Récemment, un prisonnier a été tué de 54 coups de couteau, un coup de couteau par million qu'il avait touché pour trahir sa famille. Ces familles, justement, recrutent et forment la plupart de leurs hommes de main à l'intérieur même de Poggio Reale, ce qui a valu à la prison d'être baptisé par les Napolitains l'université du crime à Naples.
La nouvelle Camorra devra avoir trois choses. Une parfaite organisation, suffisamment d'argent pour corrompre les juges et les politiciens, la conviction que nous disposons de la vie et de la mort de tout le monde.
Au fur et à mesure des années 70, la NCO se structure. Naples est un port, un emplacement stratégique pour les trafics en tout genre. Et au départ, les activités criminelles se tournent vers les cigarettes. Viennent ensuite les drogues, la cocaïne, l'héroïne, les extorsions, le racket. Mais à l'inverse du reste des clans de la Camorra, qui ne sont pas structurés et qui coexistent de façon horizontale, l'organisation imaginée par Raffaele, elle, s'articule de façon verticale, hiérarchique. L'homme veut rivaliser avec les grandes mafias du sud de l'Italie, comme la 'Ndrangheta calabraise ou la Cosa Nostra sicilienne. Il veut rassembler, derrière lui bien sûr, tous les clans de la Camorra. Il y a une vraie dimension idéologique dans les ambitions des Cutolo. Ils sont d'une certaine manière convaincus de faire le bien. Oui, il y a quelque chose d'une vocation quasi religieuse dans la fratrie. Et Raffaele parvient à agréger les foules, surtout les jeunes, à la manière d'un gourou. Une vocation qu'il explique à l'occasion de l'une des nombreuses interviews qu'il donne depuis sa prison, où il se présente volontiers comme un Robin des Bois, un bienfaiteur. Une interview reprise sur France Inter dans le magazine du Monde du 6 juin 82 en atteste.
Je suis un homme qui a été mis au banc de la société. Je suis un fils des paysans. En réalité, les gens m'aiment et ils me l'éprouvent. Je distribue aux autres l'argent qu'on m'envoie. Les journalistes parlent de guerre des clans. Il n'y a pas de clans. S'il y a eu 200 morts, cela veut dire qu'il y a des abonnés aux pompes funèbres. Et je ne comprends pas pourquoi on raconte tellement de choses sur moi. S'il y a eu des protestations publiques contre la nouvelle Camorra, ça ne me regarde pas. Moi, je ne suis le rival de personne. Je suis un homme qui se bat contre les injustices. Et comme moi, tous mes amis, tous les restes qu'on dit de moi, ce sont des balivernes. On met tout ça sur les dos de Cutolo. C'est facile. Si on dit que dans la région de Naples, il y a 3000 hommes qui sont prêts à tout pour moi, c'est que j'ai fait le bien. Je suis contre la drogue, par exemple. Je l'ai démontré par les faits. C'est derrière tous les grandes fortunes qu'il y a les crimes. La vraie Camorra est là.
Et c'est Rosetta qui se charge de mettre en œuvre l'idéologie du groupe. C'est elle qui fait en sorte que la dimension sociale de la NCO, fondamentale à la justification de son existence, soit effective. La fratrie Cutolo aide les gens, leurs concitoyens, à obtenir des places en crèche ou des logements HLM. C'est elle qui fait en sorte que les veuves de la NCO touchent bien la rente prévue par l'organisation. C'est elle, Rosetta, qui s'occupe des familles dont les enfants tombent gravement malades ou se trouvent en situation de handicap, puisqu'une allocation est prévue par la NCO dans ce cas. Voilà, c'est l'État-providence version mafia. C'est surtout du clientélisme. Et si toutes les mafias aident les familles des hommes emprisonnés, elles ne le font en général que pour leurs officiers, les plus haut placés, pas pour les petites mains. Pour Raffaele et Rosetta Cutolo, en revanche, cela fait partie de leur mission, les petites mains comme les autres. Et ça leur apporte un soutien inconditionnel de la population. Si Raffaele est le visage de la NCO, dans l'ombre, c'est bien Rosetta qui fait tourner la boutique. À cette époque, à la fin des années 70, c'est encore Vincenzo Casillo, son ancien patron, qui est responsable de la branche criminelle. Une branche qui va prendre une ampleur sidérante grâce à l'une des pires catastrophes naturelles survenues dans la région napolitaine. Nous sommes le 23 novembre 1980 et la terre se met à trembler. La nouvelle fait la une du journal de 20h de TF1.
Près de Potenza, l'un des grands centres touchés, ce sont des visions d'horreur qui attendaient les premiers secouristes, retirant un à un la centaine de cadavres, dont beaucoup d'enfants, tués dans l'écroulement de l'église alors qu'ils assistaient à l'office du dimanche soir. La terre va trembler pendant encore au moins une semaine, ont annoncé des spécialistes à la télévision, mais avec une faible intensité. Ils ont précisé qu'au moins 100 secousses ont été enregistrées et exprimé leur étonnement que les dégâts soient aussi étalés sur des centaines de kilomètres, même si quatre villes principales, Potenza, Avellino, Salerne et Naples, sont les centres de région les plus durement touchés. Si toute l'Italie, à part l'extrême nord-ouest, a ressenti les premières secousses, aujourd'hui seulement, le pays a découvert l'ampleur du drame.
Le tremblement de terre est une aubaine pour la Camorra, parce qu'il y a tout à reconstruire. Et qui dit construction, dit marché public, corruption, trafic d'influence et détournement d'argent. L'argent public et européen coule à flot et remplit les poches des Cutolo. C'est l'âge d'or de la NCO. À ce moment-là, ils sont plusieurs milliers d'hommes, pour ne pas dire de fanatiques, acquis à leur cause. En remerciement de ses loyaux services, Raffaele achète un château à sa sœur, le plus beau palais de toute la région du Vésuve. On dit qu'il y a près de 50 chambres pour voir le soleil se lever à différents endroits, chaque jour, des piscines et des cours de tennis. Rosetta est vite accompagnée d'un secrétaire et d'un garde du corps. Au début des années 80, elle est principalement chargée des aspects comptables et sociaux, la NCO. Mais n'allez pas croire que parce qu'elle ne tient pas les armes, elle n'a pas de sang sur les mains. Elle a beau passer la moitié de son temps dans les églises, elle n'est ni naïve ni innocente. La NCO n'est absolument pas une organisation de bienfaisance. Au-delà de la violence inhérente aux activités criminelles, aux rackets, au trafic, la montée en puissance de l'organisation mafieuse ne se fait pas sans encombre. Car ils sont nombreux à ne pas vouloir se ranger derrière les Cutolo. Alors, comme dans toute bonne histoire de mafia, les loups se mangent entre eux. Une première guerre des clans éclate et dure jusqu'au début des années 80, aboutissant à la victoire de la Nuovo Camera Organizzata, la NCO. Les morts se comptent par centaines, chaque année. Et c'est pour cette raison que, malgré la discrétion dont elle fait preuve, et bien qu'elle soit une femme, Rosetta finit par attirer l'attention de la police napolitaine. Roberto Saviano, toujours lui, raconte l'épisode qui la précipite dans la clandestinité. Nous sommes en 1981, elle se rend à une réunion avec d'autres mafieux et des politiciens corrompus.
Il y a aussi un fonctionnaire de la démocratie chrétienne, et Rosetta Cutolo réussit à s'échapper. Ayant probablement été avertie de l'arrivée de la police et disposant d'un moyen de sortir du château, Rosetta échappe à l'arrestation. Mais la chaise vide est l'élément le plus important que le blitz met au jour, car la chaise vide se trouvait en bout de table. La seule femme présente dans une réunion de la Camorra, dans une réunion de tractation économique et d'échange avec la politique, elle était assise en bout de table. Rien de tel ne s'est jamais produit. Nous n'avons jamais eu de preuve d'une telle chose auparavant. En général, c'est le chef de la famille mafieuse ou l'invité le plus important, en l'occurrence le responsable politique qui se trouve en bout de table, et à qui il faut demander des faveurs ou conclure des marchés. Au lieu de cela, c'est Rosetta qui dirige et commande. À partir de là, sa vie change.
Effectivement, Rosetta révèle sa position dans la NCO et l'étendue de son pouvoir, qui d'ailleurs s'agrandit soudainement quand Vincenzo Casillo, le numéro 2 du clan Cutolo, est assassiné à Rome par une voiture piégée. Rosetta récupère alors les responsabilités qu'incombaient à Casillo, c'est-à-dire une grande partie de la dimension purement criminelle de l'organisation, ce qu'elle s'était toujours refusée à faire, ou alors ce qu'on lui avait peut-être toujours refusé de faire. Toujours est-il qu'elle entame la seconde partie de sa carrière, si je puis dire, en même temps qu'elle entre dans la clandestinité. Une cavale qui va durer plus d'une décennie. Elle se cache de couvent en couvent, protégée par la population. Elle échappe à de nombreuses descentes de police. Elle parvient régulièrement à sortir du territoire italien pour des voyages d'affaires en Colombie ou au Venezuela. L'idée étant de maintenir de bonnes relations commerciales avec les fournisseurs de drogue, les narcotrafiquants sud-américains. Un tel degré de responsabilité entre les mains d'une femme, c'est du jamais vu dans l'histoire de la mafia napolitaine. De la mafia tout court, d'ailleurs. Jugez plus tôt. Rosetta Cutolo aurait aussi participé à la tentative d'évasion de son frère, commandité plusieurs assassinats, dont celui d'un directeur de prison qui aurait manqué de respect à son Raphaël. Avec ce dernier, elle est alors à la tête d'un empire de plusieurs millions de dollars. Et puis, elle applique toujours les consignes dictées par son frère depuis la prison. Un frère plus occupé, à vrai dire, à gérer la nouvelle résistance qui s'organise contre son organisation.
On a retrouvé le corps du professeur Semerari dans le coffre d'une voiture. Ceux qui l'ont tué lui ont coupé la tête. Il a été décapité. C'est une signature de la Camorra napolitaine. Couper la tête d'un cadavre, cela signifie « celui-là a trahi avec sa langue et son cerveau ».
15 hommes descendent d'un autocar armés de mitraillettes, de fusils à canoncier et les visages couverts par des cagoules. Certains des tueurs se dirigent vers la maison du chef local de la nouvelle famille et font feu vers le rez-de-chaussée. Les autres, restés sur le parvis de l'église, tirent sur un groupe dans lequel se trouve une fillette, bilan 8 morts et 7 blessés.
23 décembre 1984, une bombe explose dans le train Naples-Milan. Il y aura 15 morts et plus de 200 blessés. On a appris depuis que c'est un adolescent de 17 ans qui avait déposé la bombe dans le train. Ce jeune homme a été tué 3 mois après l'attentat devant un café à Naples. Méthode typique de la mafia et de la Camorra qui élimine volontiers les hommes de main.
Face à la NCO, s'est créé une sorte de groupement temporaire, groupement de clans, bien décidé à en finir avec la suprématie des Cutolo. Il s'agit de la Nuova Familia. Soutenue par Cosa Nostra et Drangheta, cette organisation regroupe des membres issus des plus vieilles et des plus importantes familles mafieuses de Naples. Parmi elles, la plus emblématique est la famille Giuliano. Ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'au cours des années 80, presque tous les hommes de la famille se font arrêter ou deviennent des repentis. Tant et si bien qu'il finit par ne rester là aussi qu'une femme, Erminia Giuliano. Surnommée Céleste pour ses yeux bleus, elle prend la tête de l'un des clans napolitains les plus puissants. D'elle, un enquêteur dira « Cette femme est un leader. Elle a des qualités normalement réservées aux hommes, le charisme et les capacités organisationnelles. » Ce constat, sexiste jusqu'au bout des ongles, donne une idée du personnage et du caractère d'Erminia Giuliano. Anne Véron lui consacre un chapitre de son livre intitulé « Des femmes dans la mafia ». Elle écrit.
Par son charisme et sa détermination, elle parvient à renouveler les réseaux de la famille, misant sur les affiliés du clan encore en liberté et sur les nouvelles générations, fils, neveux et gendres obtenus via d'habiles stratégies matrimoniales. Elle a la réputation d'une femme tenace qui n'a pas peur de passer à l'action. Comme ce jour de 1997 où elle blesse une rivale à l'arme blanche, ou bien, en 1999, lorsqu'elle lance volontairement sa voiture contre la vitrine d'un marchand de jouets qui n'avait pas payé le pizzo, la somme traditionnellement extorquée aux commerçants. Elle est rapidement inscrite par les autorités sur la liste des 30 criminels les plus recherchés du pays.
Rosetta, qui vient en passage d'être condamnée par contumace par la justice italienne à 10 ans de prison, se retrouve donc au cœur d'une guerre des clans face à une autre femme. Dire que cette situation est inédite est un euphémisme. Mais ces deux femmes ne viennent pas du même monde. Rosetta n'est pas de la même génération ni du même milieu social qu'Erminia. Cette dernière est issue d'une riche et historique lignée de mafieux, d'un milieu très urbain. Elle a plus de liberté, de marge de manœuvre en tant que femme que Rosetta. Elle parle fort, n'a pas peur de se faire remarquer. Elle est bien plus éduquée, plus indépendante. Elle est moins soumise que sa consœur au regard des hommes de sa famille ou du clan. Une version un peu plus moderne que la vieille dame religieuse d'Ottaviano. Signe des temps ou non, c'est la Nuova Familia qui remporte la bataille des clans face à la NCO. Une chute initiée à l'occasion d'un coup de filet organisé par la police italienne dès 1983. Extrait du journal de 13h de France 2.
En tout, 739 personnes ont été arrêtées. 402 qui se trouvaient en liberté et 337 qui passaient des jours paisibles en prison. Il y a de tout dans ce coup de filet stupéfiant. Des avocats, des maires, des conseillers municipaux, des chanteurs et des chanteuses, des religieuses, des prêtres, et même le président d'un club de football, l'Avellino, qui joue en première division. Moralité de cette histoire, 3 ou 4 personnes ont vendu la mèche, et en particulier Pasquale Barra, un ancien dirigeant de la Camorra. On l'appelait « O Animale ». Il avait tué 2 personnes en prison pour le compte du chef de la Camorra, Raffaele Cutolo. C'est une vengeance personnelle contre son chef bien-aimé. Cutolo a beaucoup d'ennemis. Il a des concurrents, et en particulier cette branche de la Camorra qu'on appelle la Nouvelle Famille. Est-ce qu'on peut déjà chanter le De Profondis de la Camorra napolitaine ? 856 mandats d'arrêt, c'est beaucoup, c'est énorme. Il faut simplement préciser que c'est la Camorra de Don Raffaele Cutolo qui a été décapitée.
Progressivement, la Nuova Camorra Organizzata s'écroule. Et un cercle vicieux se met en place. Plus d'arrestations, plus de repentis, donc plus d'informations. Raffaele, lui, est toujours en prison et commence à avoir peur pour sa sœur. Si elle a de moins en moins de pouvoir, elle constitue tout de même le dernier symbole de l'ANC que des clans adverses pourraient avoir envie de faire tomber. Et il semblerait que ce soit Raffaele qui ait négocié la reddition de sa sœur avec la police italienne en échange d'un espace sécurisé pour elle, en prison par exemple. Et comme souvent, il semblerait que Rosetta ait obéi à son frère. Elle est donc arrêtée en 1993. Inculpée de nouveau pour extorsion, racket et trafic, pour 9 accusations de meurtre, elle fonde sa défense sur son image de vieille dame, de nonna inoffensive. Rosetta joue le rôle qui lui est assigné par la société, par les hommes autour d'elle. Quelle responsabilité pouvait-elle bien endosser, puisqu'elle n'était finalement qu'une femme ? Après tout, comme l'un des anciens lieutenants de la NCO, Pasquale Barra, l'a dit, qu'est-ce que les femmes ont à voir avec la Camorra ? Une magistrale erreur de jugement qui aura longtemps profité à Rosetta Cutolo, qui, selon un procureur en charge du dossier, est devenue de son propre chef, c'est le cas de le dire, la véritable dirigeante de la Nuova Camorra Organizzata. Toujours est-il qu'à sa sortie de prison, elle retourne à Ottaviano et passe le reste de sa vie sans encombre dans le village de son enfance. Elle meurt le 14 octobre 2023, 2 ans après son frère, dans un lit, ce qui n'est pas forcément la règle du côté des mafias. Aujourd'hui, l'histoire de Rosetta Cutolo et plus largement de La Camorra napolitaine. Notre invitée Anne Véron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice et réalisatrice franco-italienne. Vous avez réalisé un documentaire intitulé « Des femmes dans la mafia ». Puis vous avez coécrit un ouvrage sur le même sujet, « Femmes dans la mafia, marraine ou madone » avec Émile Cacane, un livre paru aux éditions du Nouveau Monde en 2015. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet, au point d'en faire deux, un documentaire et un livre? Et quelle était votre intention éditoriale, pour le livre en tout cas?
Bah, comme vous le disiez, je suis réalisatrice de documentaires et ça fait à peu près 15 ans que je m'intéresse à ce sujet. Mmh. Et au départ, on s'intéresse évidemment qu'aux figures masculines sans s'en rendre vraiment compte parce que c'est les seules figures qu'on connaît. Et à force de faire des arrestations, par exemple, avec la police, on se rend compte que les femmes sont très présentes. Elles hurlent au moment de l'arrestation. Elles attendent leur mari ou leur père à la sortie du commissariat quand ils sont emmenés en prison. Elles se jettent sur la voiture. Il y a eu d'autres arrestations où on a arrêté aussi des familles entières, dont la grand-mère. Et j'ai voulu faire un documentaire et ensuite écrire un livre là-dessus parce que on en parle très peu et qu'on se demande toujours, en particulier en tant que femme, comment c'est possible, qu'est-ce qui attire ces femmes dans un monde si masculin et si violent. Mmh.
Vous vous souvenez d'ailleurs des femmes que l'on voit sur les images documentaires des grands procès de Palerme, qui oui. regardent les repentis dans les yeux et qui font le signe de passer le doigt le long du cou, genre, toi tu vas y passer, avec vraiment une hargne, quelque chose de guerrier.
Ben oui, ces images sont très impressionnantes et elles prouvent que la femme, qu'on a considérée longtemps comme des victimes soumises dans ce monde ultra-violent, était loin, très loin d'être innocente. Et dans ce cas particulier, elle venait menacer leur mari pour leur dire « tu n'as pas intérêt à te repentir et à collaborer avec la justice ». Et un magistrat me racontait une fois que très souvent, quand un mafieux décide de se repentir, ils sont un peu inquiets au moment où il va le raconter à sa femme, parce que très souvent, il change d'avis.
Parce qu'en fait... Il veut plus se repentir.
Ils veulent plus se repentir, une fois qu'ils en ont parlé à leur femme. Parce qu'à partir du moment où il se repentit, la femme perd elle aussi son statut, elle devient une femme de infâme. Donc elle décide ou de partir vivre sous une nouvelle identité avec le mari. Très souvent, elles viennent de réalités petites, d'un village ou d'un quartier, elles connaissent rien d'autre. Et elles vont être reniées par une partie de la famille et par leurs amis et perdre leur statut. Mmh. Parce que ces femmes de mafieux, il ne faut pas oublier qu'elles ont un statut dans leur quartier. C'est les femmes d'un tel et donc elles peuvent se permettre beaucoup de choses. Elles ont de l'argent, elles ont de pouvoir. Et les femmes aiment ça aussi. Et donc elles ne veulent pas le perdre. Donc très souvent, elles préfèrent que leur mari parte en prison à perpétuité et qu'elles continuent tranquillement leur vie.
Alors elles ont du pouvoir, mais elles restent quand même femmes d'eux, hein, tradition culturelle machiste. Est-ce qu'elles peuvent pratiquer les rites d'initiation?
Non, c'est jamais arrivé. On n'a jamais entendu une histoire de femme qui a passé le rite d'initiation et qui est officiellement mafieuse. Elles sont en effet toujours femmes d'eux, mères. Leur rôle, il est beaucoup plus, il est très important. Je veux dire, des magistrats me disaient, les mafias n'auraient jamais été aussi puissantes s'il n'y avait pas eu les femmes. Parce que les hommes, il ne faut pas oublier, les hommes sont en cavale, sont en prison, ils sont peu à la maison. Et pourtant, les fils deviennent eux-mêmes mafieux. Donc, qui est-ce qui leur transmet cette culture? C'est la femme, c'est la mère. Mmh. Et donc, elles ont ce rôle de gardienne et de perpétuer les traditions mafieuses, et souvent dans le culte du père. Donc voilà, donc elles sont des femmes d'eux et des mères d'eux, mais ça ne leur empêche pas d'avoir un grand pouvoir sur l'organisation mafieuse.
Est-ce qu'elles ont participé, ce qu'on en connaît, qui ont participé au crime de sang? Des mafias, pas forcément de la Camorra.
Alors, dans les mafias, il y en a très peu. Ça, il faut le dire que dans un crime direct, il y en a très peu. Il y a cette histoire incroyable de Pupé Tamaresca à Naples qui a vengé son mari et qui est rentré dans un bar avec un fusil et qui a tué l'assassin de son mari. C'est très rare. Après, elles ont donc il y en a très peu qui sont condamnées vraiment pour meurtre parce que c'est difficile. Il y en a qui ont commandité des meurtres, mais c'est plus difficile à prouver. Par contre, dans l'histoire, ce sont les femmes aussi qui incitaient leur fils ou leur mari à la vengeance, à la vendette. Donc c'est une forme de commanditation, je ne sais pas si on dit comme ça, une façon de commanditer un crime. Il y a cette légende qui raconte de cette femme qui avait gardé la veste ensanglantée de son mari après qu'il soit fait assassiner, qu'elle l'a gardée dans une armoire et qu'elle l'a offert aux 18 ans de son fils, avec le message donc qu'il devait venger son père. Donc la femme n'a jamais tué, ou en tous les cas très peu, directement des personnes. Par contre, elles sont responsables de meurtres, sûrement, beaucoup.
Et quelles sont leurs activités, alors on va dire de meurtres et de crimes de sang de façon marginale, mais leurs activités à ces femmes, c'est quoi? C'est l'intendance, c'est la compta, je ne sais pas.
Alors ça dépend un peu de quelle période. Donc pendant très longtemps, c'était, voilà, on va dire les gardiennes de la culture et des traditions mafieuses. C'était la mère. Ensuite, dans les années 90, il y a deux lois qui ont été mises en place. C'est la loi du 41 bis, qui est un régime carcéral strict et dur pour les mafieux, où ils sont à l'isolement, où ils peuvent avoir très peu de visites, et les visites qu'ils ont, c'est toujours derrière une vitre pour les empêcher de continuer à commander l'organisation. Et du coup, les seuls à venir leur rendre visite, c'était leurs femmes. Ce sont leurs femmes encore aujourd'hui. Ouais. Et donc, ils ont commencé à donner les informations aux femmes, et elles ont commencé à devenir messagère et donc à prendre une responsabilité juridiquement aussi. Ensuite, il y a aussi la loi sur les repentis qui est sortie. Donc, il y a eu énormément de repentis. Les mafieux pouvaient commencer à avoir des remises de peine en collaborant avec la justice et en donnant les informations sur le clan. Donc, les mafieux qui étaient encore dehors ne savaient plus trop à quel saint se vouer, à qui faire confiance, parce qu'il y avait trop de repentis. Donc, à qui il pouvait faire confiance? Ben, le plus souvent à sa femme. On se dit, elle va pas me trahir. Donc de plus en plus, ils ont commencé à leur donner, un rôle qui est souvent, oui, en effet, administratif, qui est de messagère, qui est de prête-nom. Mais c'est par opportunisme qu'ils ont commencé, à donner un peu plus d'importance aux femmes.
Et comment vivaient ces femmes face au danger de voir leur fils se faire tuer?
Mais c'est ça qui est étrange. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Et c'est ça qui, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu m'intéresser à ce sujet, parce que c'est la contradiction la plus grande qui existe, qu'une mère envoie son fils à la mort ou à la prison, parce que c'est quand même le destin d'un mafieux, c'est celui-là. J'ai jamais trouvé de réponse. Hein.
je le sens d'ailleurs. Je le sens.
Donc là vous m'en posez une. Mais ce qu'on peut dire, voilà, en effet, il y a des femmes. Giuseppe Nanap, la femme de Saint-Decan, d'un grand mafieux. Mm-hmm. À un moment, quand il s'est fait arrêter, il lui a dit, quand il a pris perpétuité, il a dit pars avec les enfants dans le nord de l'Italie où elle avait une sœur et change de vie.
Ouais,
et elle a refusé.
Donc
elle a refusé, ses deux fils sont finis en prison.
L'attachement à la mafia, au groupe,
c'est plus fort que tout. Alors je ne sais pas si ça c'est transcende. La mafia, c'est la culture.
En fait,
il ne faut pas oublier qu'on parle de petits villages, de quartiers, on ne parle pas de Paris, de villes ouvertes, où on a... Non, ces femmes-là, elles ont grandi là, elles n'ont pas envie de quitter tout leur monde, c'est extrêmement difficile pour elles, et encore une fois, les femmes, oui, aiment aussi l'argent et le pouvoir. Quitter ce statut, c'est pas forcément facile pour elles, et se libérer de leur éducation et de leur tradition, c'est difficile, elles ont été éduquées là-dedans.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aveyron, il a été dit, je vais le vérifier avec vous, après les grands procès de Cosa Nostra, notamment, qui a été quand même plus ou moins décapité, hein, ses chefs ont été arrêtés, Totorina en tête, et bien d'autres, on a dit que c'était les femmes qui ont dirigé Cosa Nostra. Après les grands procès, est-ce que c'est vrai?
Alors, pas à ma connaissance, non.
Bon.
Ça reste des organisations masculines. Oui, ça reste une affaire d'hommes, avec évidemment quelques femmes par-ci par-là qui ont pu prendre un peu plus d'importance. Mais de là à être dirigé par des femmes, non, je pense qu'on est, on est très loin de ce cas de figure.
Alors, on a parlé de Rosetta Cutolo, bien sûr, on a parlé également d'Erminia Giuliano. Elles ont toutes deux participé à la direction d'un clan camorriste. Qu'ont-elles en commun et qu'est-ce qui les différencie ?
Alors, Rosetta Erminia, elle reflète exactement la diversité de Naples, parce que il faut pas oublier que, on l'a expliqué dans l'histoire, que la Camorra, c'est pas comme Cosa Nostra une organisation structurée et unie. Il n'y a pas un, entre guillemets, code d'honneur ou des règles communes qui régissent l'organisation. L'organisation est faite de beaucoup de clans et cette diversité et cette multiplication de clans et cette absence de structure permet aussi a permis aussi à beaucoup de femmes d'avoir plus d'importance. Il y a même eu des homosexuels, des transsexuels. Et donc, il faut voir qu'il y a de nombreuses camorras. Et il y a surtout une grande différence à faire, c'est la camorra de la ville, du centre-ville de Naples, et la camorra de la campagne, de la région, de la campagne. Mmh. Et Rosetta Erminia, elle représente vraiment ces deux réalités. Rosetta, elle vient de la campagne. C'est une femme sobre, discrète, traditionnelle, habillée très souvent en noir et qui est soumise à l'homme et on lui connaît pas non plus d'amant ou voilà alors que Erminia c'est tout le contraire, c'est une femme flamboyante, extravagante, bruyante à l'image des femmes de Naples. On disait à Naples on dit donne di guai, femme à ennui. Parce que les femmes napolitaines aiment les hommes, voilà, ça crée des conflits. Et donc Erminia, elle représente voilà cette extravagance et cette envoyance de la femme napolitaine. Donc elles sont complètement opposées. Et puis il faut pas oublier que Erminia Giuliano, elle vient d'une grande dynastie mafieuse, la famille Giuliano, qui a toujours été très importante. Alors que Rosetta, elle vient d'un milieu paysan qui a toujours été voilà, qui n'a pas grandi. Dans la mafia, dans la criminalité.
Aujourd'hui, on dit que 'Ndrangheta est devenue la mafia la plus puissante, plus puissante que la Camorra, que Cosa Nostra et que Santa Croce, qui est dans les pouilles, je crois, mais moins envahissante.
La Saga Corona, oui. Oui, la 'Ndrangheta, elle a une puissance énorme qu'elle a tirée tout d'abord de la chute en fait, de Cosa Nostra, après... après la saison des attentats qu'il y a eu et où l'État a été obligé de vraiment mettre de taper dur. Cosa Nostra a perdu énormément de pouvoir dans les années 90 et la 'Ndrangheta
a
profité. Et puis la 'Ndrangheta a une structure aussi peut-être plus moderne. Ce sont d'un côté très traditionnel et justement beaucoup moins développée, mais à la fois plus moderne dans le sens que elle est implantée partout dans le monde. Il y a des clans de la 'Ndrangheta, des familles de la 'Ndrangheta qui ont émigré il y a longtemps et qui sont... Donc c'est une fédération de familles implantées comme ça dans le monde qui leur donne une force énorme dans le trafic de drogue et dans tous les trafics dans lesquels elles sont. Donc la 'Ndrangheta, oui, elle est extrêmement puissante. On dit que c'est vraiment une des plus puissantes du monde, voire la plus puissante du monde.
La grande idée de l'État italien, c'est quand même la repentance. Enfin, c'est d'avoir recours à des repentis. C'est ce qu'ont fait le juge Falcone et Borsellino. Entre autres, ça a été efficace, même exemplaire. Est-ce que les femmes se sont moins repenties que les hommes ou est-ce qu'elles sont repenties également quand elles avaient un dossier ?
Alors, il y a eu beaucoup moins de femmes qui ont été arrêtées. Et les femmes qui ont été arrêtées et condamnées ont eu des peines beaucoup moins sévères que les hommes. Un homme, un mafieux, se repentit quand devant lui se projette une vie de prison à l'isolement et à perpétuité. Là, un mafieux commence à se poser des questions, il fait le pour et le contre, et il se dit que c'est peut-être pas mal de devenir un infâme, mais au moins de pouvoir retrouver une vie, sa famille, etc. Les femmes... il y en a très peu qui ont eu perpétuité. Parce qu'on leur a pas.
Elles sont moins impliquées dans les crimes de sang aussi, ça doit compter.
C'est ça.
Dans
l'échelle des peines, voilà. Donc du coup, c'est beaucoup plus difficile. Elles sont très peu nombreuses à avoir une perpétuité. Donc pour elles, c'est mieux de se dire, je fais mes 6 ans de prison, mais comme les hommes, et de ressortir et de retourner dans mon quartier, de retrouver ma vie, de retrouver ma famille et de pas devenir une infâme.
Une toute dernière chose. Quand il nous reste quelques secondes, on peut dire marraine ou pas? Les parrains de la mafia, les marraines de la mafia?
Oui, enfin, moi je suis plus pour marraine que madone, malheureusement.
Okay. On peut dire marraine. Bien, merci, voilà. merci pour tous ces éclairages. Anne Véron, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Rosetta Cutolo, femme d'honneur, une histoire de la mafia napolitaine, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Baptiste Collion.